Roman, BD, documentaire, livre pour enfants ou guide de voyage, c'est qui ou quoi sur Radio Duo, une demi-heure avec un quart d'heure de retard, pour vous parler de livres à lire tout à l'heure, avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Il y a un peu plus d'un mois, j'avais parlé de mes trois de mes BD préférés. Et quand j'ai commencé à préparer l'émission de ce soir, je me suis dit que j'allais continuer sur ma lancée. Je voulais compléter le podium pour essayer de vous donner envie de lire trois autres BD de mon panthéon personnel. À qui ou quoi on aime les BD, donc on arrête de se retenir. Sauf qu'en fait, j'ai changé d'avis. Mais bon, même s'il y a des BD et des auteurs de BD dans les livres dont je vais vous parler ce soir, il n'y a pas que ça. Donc, ce soir, je vous parle du Pavé de Paris, d'Emmanuel Guibert, du bandit généreux de Li Du-ho, et de Face to Face de François et Jean Robert. Donc, on est toujours dans mon panthéon personnel sur ce coup, mais ces livres, dont on ne parle peu, plus ou pas, on en parle ici, ce soir, et c'est parti. Alors, le premier livre dont je vous parle ce soir, c'est Le Pavé de Paris. C'est un carnet de croquis, et si je vous en parle, c'est parce que l'auteur, c'est Emmanuel Guibert, et qu'Emmanuel Guibert, c'est un des plus grands auteurs de BD aujourd'hui, enfin, à mon sens. Alors, le truc avec Emmanuel Guibert, c'est que j'arrive pas à savoir s'il est vraiment connu en dehors des amateurs de BD. En tout cas, c'est un auteur reconnu par ses pairs à bien des niveaux. Il a eu plusieurs prix pour plusieurs de ses BD, le plus récent étant le prix Goscinny qui est décerné pendant le festival d'Angoulême. J'en profite d'ailleurs pour faire une petite aparté sur ce prix, qui m'a bien fait rigoler vu qu'il est censé être décerné à un jeune auteur, sauf qu'Emmanuel Guibert n'est pas vraiment un rookie vu qu'il est né en 64 et que sa première BD date de 1992, mais bon. Emmanuel Guibert, c'est donc un auteur complet qui œuvre aussi bien du côté du scénario pour d'autres dessinateurs ou pour lui-même et qui dessine aussi à côté. Côté scénario, on peut dire qu'il est plutôt régulier vu que c'est lui qui scénarise Ariol le petit âne à grandes lunettes qui a remplacé Tom Tom et Nana dans J'aime lire. Et oui, pour les plus âgés d'entre nous, Tom Tom et Nana, c'est fini. Je ne l'ai appris personnellement que récemment. Et côté dessin, par contre, on peut pas dire qu'il soit très prolifique, parce que depuis sa première BD en 92, donc, j'ai compté un peu moins d'une vingtaine de BD, une grosse quinzaine en fait, en 36 ans. Bref, il reste finalement un auteur assez rare. En fait, cette rareté s'explique, je pense, assez facilement, tant on sent que chacune des œuvres d'Emmanuel Guibert est le fruit d'un artiste méticuleux, à la recherche de la perfection, carrément, et un artiste qui remet en permanence ses pratiques en question et qui cherche tout le temps à évoluer au niveau du dessin. En fait, avant de vous parler du Pavé de Paris, plus précisément, je peux pas m'empêcher de vous parler rapidement de certaines de ses autres œuvres qui comptent toujours à mon sens, pour certaines parmi les plus importantes de la bande dessinée des décennies récentes. En fait, quand Emmanuel Guibert scénarise des BD, ce sont des BD pour enfants, parce qu'en plus d'Ariol dont j'ai parlé avant, il a aussi créé avec Johannes Farr Les Sardines de l'espace. Donc là, pareil, il est au scénario, mais Emmanuel Guibert, il écrit et il dessine aussi, mais là, à chaque fois qu'il dessine, c'est pour un public adulte. En fait, il a commencé à être connu grâce à sa première BD avec Sfar qui s'appelle La fille du professeur. BD qui est sortie à un moment où les Inrocks ont commencé à s'intéresser aux BD et où Sfar a commencé à prendre son envol. Une époque où les graines semées par l'association et ses compères éditeurs ont commencé à éclore. Et c'est justement chez l'association qu'Emmanuel Guibert a commencé son gros œuvre, La guerre d'Alan, une BD dans laquelle il met en image les souvenirs de son ami Alan Kopp, qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale, mais d'une drôle de façon, une drôle de guerre sans mort et sans combat. l'autre BD qu'il a écrite et qui compte pour moi dans sa bibliographie, c'est Le Photographe, qui raconte le périple d'un photographe qui s'appelle Lefebvre et qui devait en fait documenter une mission de Médecins Sans Frontières, ou Médecins du Monde, j'avoue que je confonds les deux, en Afghanistan à l'époque de la guerre avec les Russes. Et la BD, en fait, elle marie très subtilement les clichés photos de ce fameux Lefebvre et les dessins d'Emmanuel Guibert. C'est à lire absolument, mais c'est pas de ça dont on parle ce soir. En fait, Emmanuel Guibert, il s'est fait un peu une spécialité de mettre en image les souvenirs des autres. Sauf qu'il est aussi particulièrement bon pour mettre les siens en mots et en images. Et c'est ce qui nous amène au livre dont je voulais vous parler ce soir, Le Pavé de Paris. Ce livre qui a la taille d'un pavé parisien, hauteur, largeur, longueur, tout comme un pavé. Un livre qui documente les années pendant lesquelles Emmanuel Guibert a vécu à Paris. Ce pavé de Paris, en fait, c'est un carnet de croquis. Des dessins faits dans la rue à la volée, ou pas. En fait, j'en sais rien. En fait, moi, j'y connais rien en dessin. Mais dans ce livre, je constate qu'il y a différentes techniques utilisées que je serais d'ailleurs incapable de décrire ou d'expliquer. Je sais pas si c'est du crayon de couleur, de l'aquarelle, de la gouache, j'y connais rien. D'ailleurs, en fait, pour essayer de vous expliquer un peu ce qui ressort de ces dessins, j'avais découvert une vidéo d'Emmanuel Guibert sur YouTube il y a très longtemps. Il y a des années de ça, dans laquelle il montrait comment il avait dessiné la guerre d'Alan. Et dans cette vidéo, on suit en fait la main d'Emmanuel Guibert dessinée avec un pinceau plein d'eau. Pas de peinture, rien, juste de l'eau. Donc il dessine à l'eau, il dessine du vide, on voit rien. Et à la fin, une fois qu'il a fini son dessin, il met de l'encre dans l'eau avec une pipette. Et l'encre, par capillarité, nous dévoile le dessin. C'est un peu dur à expliquer de vive voix, mais vraiment, c'est magique à l'écran. Et donc, je me suis dit que je mettrais le lien sur le Facebook de l'émission et en commentaire du podcast de l'émission, qui sont tous disponibles sur le site de Radio Audio. Et en fait, c'est vraiment ce que m'inspire ce pavé de Paris et ses dessins. Ses dessins sont magiques. Arrivé à ce point, je dois quand même vous dire que les livres d'illustration d'auteurs de BD me font en général super chier. En BD, je suis assez exclusif. C'est vraiment la somme, dessin plus histoire qui me plaît. Je suis super hermétique à tout ce qui est exposition d'original et autres recueils d'illustrations. Et pourtant, ce pavé, c'en est un de recueil, et je l'adore. Au final, c'est pas n'importe lequel de recueil, parce que justement, il m'a ouvert la porte des autres. En fait, le plus, le détail qui rajoute, qui fait que ce recueil n'en est pas vraiment un, c'est que presque chaque dessin est accompagné d'une histoire. Et Emmanuel Guibert, en fait, en plus d'être un magicien du dessin, est un très bon écrivain. Enfin, écrivain, je sais pas, mais en tout cas, un très bon chroniqueur du quotidien. C'est rigolo, c'est poétique, c'est grave ou pas, mais surtout c'est vivant. Un peu comme certains épisodes de cette émission de France Culture, nos fameux concurrents, qui s'appelle Les Pieds sur Terre tous les midis, et qui nous donne à entendre des témoignages. Ici, c'est plus léger que ce qu'on entend en général dans Les Pieds sur Terre, c'est plus anodin, mais ça me fait un peu le même effet. La première histoire qu'il raconte d'ailleurs, c'est celle de son nouveau voisin Nono, qui n'arrête pas de faire du bruit parce qu'il baise à tire-larigot, et qu'il en fait profiter tout le voisinage. Personne ne souhaiterait avoir un voisin pareil. Et en même temps, c'est un personnage, c'est dur de lui en vouloir, il est tout gentil. Et puis quand il s'en va, en fait, tout le monde est content, sauf qu'à force d'avoir fait déborder la baignoire, ce Nono, il a créé un énorme dégât des eaux. Et que depuis, il faut un déshumidificateur qui fait du bruit tout le temps. Donc lui, il est plus là, mais par contre, il y a toujours du bruit. À Saint-Thé, à chaque rentrée des Beaux-Arts, on voit les élèves qui errent dans le Cré de Roc parce qu'on les force à dessiner le quartier. Et à chaque fois, je pense à Emmanuel Guibert et à son pavé, et je me demande ce que ce serait un pavé stéphanois. « Pour finir cette chronique, en fait, je me suis rendu compte en la préparant qu'on fête le cinquantenaire de mai 68 et que je chronique le pavé de Paris. En fait, c'est un peu mon hommage à mai 68. C'est rigolo. Après, je tiens quand même à dire que ce livre, il est tellement bien que même en cas d'insurrection, celui-là de pavé, eh ben je le garde. Chez Seize avec Travailler. Et vous êtes toujours sur Radio Dio, vous écoutez toujours qui ou quoi Chronique de bouquins. Et on va parler d'un deuxième livre maintenant. Le deuxième livre dont je vais vous parler ce soir, c'est une série qui s'appelle Le bandit généreux de Lee Doo-ho. Le bandit généreux, c'est un manhwa, enfin, je sais pas comment ça se dit en fait, un manhwa je crois. Et pour ceux qui ne savent pas, un manhwa c'est un manga mais coréen, c'est-à-dire que c'est juste une BD qui vient de Corée. Le bandit généreux, je vais vous en faire un rapide résumé. Nous sommes au XVIe siècle et c'est l'histoire de Lim Keok-jeong, excusez-moi mon accent coréen, un enfant issu des classes laborieuses comme on dit, un fils de Baekjong, c'est-à-dire les gens qui abattaient les bœufs à l'époque et qui étaient considérés comme la classe sociale la plus basse dans la société coréenne de l'époque. Et donc ça va être l'éveil de Lim Keok-jeong à toutes les injustices de cette société, et on va le suivre de son enfance jusqu'à la fin de sa vie d'adulte. Pour vous situer un peu l'ambiance, je vais vous raconter une des premières histoires qui me revient quand je pense au bandit généreux et qui se situe donc au tout début. Alors qu'il est encore enfant, la sœur de Lim Keok-jeong se fait violer par le fils du petit seigneur local. Et il la met enceinte, sauf que bien évidemment, le fils de seigneur ne peut pas reconnaître l'enfant, car ce serait ternir sa réputation que d'avouer avoir ne serait-ce que couché avec une Baekjong. Donc la sœur de Lim Keok-jeong se retrouve fille-mère, sans père. Et pour sauver la famille d'un tel affront, le père va s'auto-accuser du viol de sa fille pour qu'on ne tue pas la fille et l'enfant, et accessoirement pour sauver la face du seigneur, mais bon, ambiance. Et bien sûr, tous les villageois préfèrent s'arrêter à cette version soi-disant officielle et le traitent comme une merde de père incestueux, rendant la famille encore plus indésirable qu'elle n'est de par sa position sociale. Et donc, ce monsieur finit par sombrer dans l'alcool. Bref, c'est une dureté à toute épreuve, et bien sûr ça, ce n'est que le début. En fait, la BD est inspirée d'un récit populaire coréen. L'histoire de Lim Keok-jeong est une espèce de légende là-bas. C'est une espèce de Robin des Bois coréen qui volait aux riches pour rendre aux pauvres. En fait, Lee Do-ho, l'auteur, s'appuie sur ce personnage pour construire une énorme fresque historique d'une ampleur, d'une précision et d'un souffle jusqu'ici, à mon avis, quasi inégalé en BD. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme, au sens propre comme au sens figuré. Au sens propre parce que la dernière édition française comptait 11 volumes d'environ 800 pages chacun, je vous laisse faire le calcul, et par exemple, moi je me souviens avoir mis plusieurs mois à lire l'intégralité. Et au sens figuré, de par l'ambition et la qualité de l'œuvre. En fait, les seules comparaisons qui me viennent quand je pense à cette BD, ce sont des films. Ran d'Akira Kurosawa ou Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone. Ces grandes fresques historiques qui prennent largement leur temps et qui racontent un pays. Je vais vite aborder le seul point faible de la BD, c'est le dessin. En fait, on est très loin d'un style manga, comme on peut retrouver dans certains manhwas. Au départ, moi, je croyais que la BD datait d'il y a super longtemps, parce que je trouvais le graphisme daté, peu précis, personnel, mais franchement moche. En même temps, bref, c'est pas grâce à lui que je m'étais tourné vers cette BD. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une autre aparté, tout à l'heure j'en ai déjà fait une. C'est un libraire BD à Paris qui venait d'ouvrir et qui l'avait mis en avant dans sa vitrine et sur son mur Facebook, qui m'a orienté vers cette BD. Ce qui me permet de dire que les libraires et les disquaires, soyons fous, et leurs murs Facebook sont d'excellentes sources de livres à lire, presque autant que les émissions de Radio Duo, c'est dire. Bref, toujours à propos du dessin, quand on cherche sur internet, on retrouve assez vite la citation d'un certain Park Jae-dong quand il parle du bandit généreux. C'est un dessinateur coréen connu apparemment, et qui dit du bandit généreux que c'est comme la viande de baleine. Ça rebute de prime abord, mais une fois qu'on y a goûté, on devient accro. Bon, j'ai jamais goûté de viande de baleine. En fait, je crois même que je trouve que cette citation est crétine, même si on la trouve partout sur internet. Mais je pense que c'est peut-être à cause du dessin qu'il dit ça, parce qu'il n'est vraiment pas une bonne porte d'entrée à la BD. En dehors de ce dessin, en fait, c'est l'histoire qui est extrêmement forte. Le rythme est maîtrisé à la perfection. Il n'y a aucun temps mort sur les milliers de pages que compte la série. Sur 11 volumes, Lee Do-ho nous raconte l'histoire de Lim Keok-jeong, mais aussi de tous, mais vraiment tous, les personnages qui l'ont croisé de près et même de moyen près, quoi. La qualité d'écriture des personnages est excellente. Chaque personnage est fort, complexe, authentique. J'ai énormément de mal à me dire qu'ils n'ont pas existé. Même aujourd'hui, je me dis qu'on m'a raconté que c'est une histoire vraie, quoi, que c'est un témoignage d'époque. Liduo prend son temps pour nous raconter l'histoire, l'empathie devient totale, et au final, Liduo touche à l'universel. La vie, la mort, l'histoire, la philosophie, tout en même temps. C'est un putain de chef-d'œuvre. Personnellement, quand il s'agit de cinéma, j'ai un peu la larme facile. Je suis capable de pleurer facilement devant un film, même si rien ne me fera jamais autant pleurer que Le Tombeau des Lucioles ou Sur la route de Madison. Mais en BD, c'est pas la même. Il n'y a qu'une seule BD qui m'a fait pleurer, et c'est Le Bandit Généreux. Je n'ai jamais été aussi touché par un destin aussi tragique dessiné en noir et blanc. Donc voilà, vous vous en doutez, il faut, mais vraiment il faut, lire Le Bandit Généreux. Sauf qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il est plus disponible en France. L'éditeur, Paquet, a arrêté de le commercialiser. Et ça, ben, ça fait chier. Et rendez-vous avec le morceau Distance. Donc, vous êtes toujours sur Radio Duo, dans Qui ou Quoi. Et maintenant, je vais vous parler du dernier livre dont j'avais prévu de vous parler ce soir. Donc, après Le pavé et le bandit, je vais vous parler de visage. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure l'importance de ma veille documentaire. J'aime utiliser des gros mots après 9h du soir. Sur des murs Facebook de librairie. Eh bien, j'ai un autre endroit où j'aime fouiner, et il y a toujours des trucs un peu différents et qui m'intéressent, ce sont les boutiques de musées, et plus précisément, les librairies de musées d'art moderne. Et ça tombe bien à Saint-Thé, on a un musée d'art moderne avec une librairie. Que demande le peuple ? Bon. Donc je ne sais pas si vous l'aurez deviné, mais le livre dont je vais vous parler, je l'ai découvert dans une librairie de musée, mais pas à Saint-Thé, à Grenoble. Et puis c'était il y a bien longtemps, maintenant vu que le livre date de 1995. Ça s'appelle Face to Face, de François et Jean Robert, et c'était publié chez Lars Müller Publishers. En fait, là ça va être un peu casse-gueule, parce que pour le coup, je vais devoir vous parler d'un livre qui n'a pas de texte, qui n'a pas d'histoire, et qui normalement se passe de description. Mais bon, ce sera pas la première fois que je me lance dans ce genre d'exercice. Dans cette émission, j'ai bien parlé de comment faire caca dans les bois. François et Jean Robert, ils sont photographes, et je sais plus d'où ça leur est venu, peut-être la drogue, mais un jour, ils ont commencé à voir des visages partout autour d'eux, mais dans les objets de notre quotidien. Et en bons photographes, ils ont décidé de les prendre en photo et de nous les montrer. Donc ils en ont fait ce livre, qui est, eh ouais, encore un recueil, mais de portraits. On a un réveil, une valise, un tire-bouchon, c'est une espèce de who's who, mais poétique, un peu en mode art brut. Je me souviens encore de l'enthousiasme que j'avais ressenti en découvrant le livre. J'avais littéralement trouvé ça génial. En fait, ça procède de ce truc d'enfant de voir des formes dans les nuages. Je me souviens bien, petit, d'avoir vu la forme d'un bonhomme dans une façade d'immeuble et de le retrouver, ce bonhomme, à chaque fois que je passe devant, 30 ans plus tard. Une espèce de street art. Bah là, c'est pareil, mais un street art à la maison. Là où François et Jean-Robert sont forts, c'est qu'on voit d'abord les visages. Des visages tristes, contents, rigolos, poétiques, je sais, je me répète. Mais ils sont tous différents. Et dans un second temps, et après avoir fait connaissance avec eux, on voit l'objet. Voire on devine les objets parce qu'en fait, on préfère voir les visages plutôt que les objets, qui sont quand même moins... Les objets qui sont plus ennuyeux. En fait, c'est un peu comme si les lutins de la maison existaient et qu'ils se cachaient dans la maison et qu'on mettait enfin à jour leur technique de camouflage. La découverte de ce livre a été comme un déclic, et depuis c'est devenu un jeu, pour moi, de voir des visages partout. Alors je vous avoue, il y a eu un moment où je me suis dit, en fait, ce serait facile de faire comme eux. Mais autant je réussis régulièrement à retrouver des visages de partout, d'ailleurs à Saint-Thé, il y a des bouches d'égout qui me regardent dans toutes les rues, autant j'ai essayé de les prendre en photo et c'était tout pourri, comme quoi, finalement, c'est pas si simple. Bon, comme pour eux c'est facile, ils ont depuis décliné leur concept en couleurs, mais jamais avec autant de force et de poésie, vous l'aurez compris cette fois, ça fait trois fois que je le dis, que dans ce premier livre, Face to Face, avec son beau noir et blanc et tous ses beaux visages de face. Certains auteurs de livres jeunesse, comme Gilbert Legrand, font des choses un peu similaires à base de photos d'objets détournés pour en faire des super-héros par exemple. Et je serais d'ailleurs curieux de savoir s'ils connaissent ces auteurs, là, ces auteurs François et... Je me perds. Les auteurs de Face to Face. Et en attendant, moi je peux vous assurer que si je penche la tête à droite, la console de Radio Duo est en train de me regarder et de me sourire. On approche de la fin de cette émission. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé du pavé de Paris d'Emmanuel Guibert qui a été réédité chez Futuropolis. Contrairement au bandit généreux de Li Duo qu'il faut absolument lire mais qui est impossible à lire vu qu'il n'est plus réédité. Et de Face to Face de François et Jean Robert qui vous permettra de justifier enfin quand vous parlez tout seul chez vous ou au boulot en disant que c'est votre ordi qui vous regarde. En attendant, l'émission touche à sa fin. Donc, je me répète encore sur les différents livres que j'ai pu vous présenter ce soir. Donc il y avait Le pavé de Paris d'Emmanuel Guibert, Le bandit généreux, que vraiment, 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 j'aimerais que vous essayiez de lire, de trouver et de lire. Et en dernier, le face-to-face. En fait, ce que je vais faire, c'est que quand j'aurai mis le podcast en ligne sur le Facebook de l'émission et sur le site de Radio Dio, je mettrai les liens pour ces bouquins en commentaire, et puis ben, n'hésitez pas à réagir. Je voulais aussi en profiter de cette émission pour vous signaler que le dernier numéro de la revue Atome sur les mangas vient de sortir. Depuis que j'ai découvert l'émission, et ben, j'en parle à chaque fois qu'il y a un numéro qui sort dans l'émission, qui ou quoi, et ben, je vous le dis. C'est un super numéro sur Rumiko Takahashi, la créatrice de Ranma Annie et Juliette Je T'aime, ainsi que plein d'autres auteurs et de mangas à découvrir, comme d'habitude. Et j'ai pas d'action chez eux, hein, mais c'est juste que je trouve que c'est super, et comme je vous ai dit, à qui ou quoi on aime la BD. Et les mangas sont des BD, donc comme les autres, voilà. Il y a aussi un nouveau Banzai, pareil, à chaque fois qu'il y en a un qui sort, j'en parle ici. Donc voilà, je voulais juste les évoquer. Pareil que Papillon, je vous rappelle la Diophonie numéro 4, qui aura lieu le 26 mai à l'Amicale Laïque du Cred Rock, à partir de 18h, pour une écoute collective autour de Rock Against the Police. Une expérience de lutte menée à la fin des années 70 par des jeunes immigrés prolétaires afin de faire face et réagir de manière autonome aux meurtres racistes, à l'occupation policière, aux galères de logement, aux expulsions. Quand les Lascars s'organisent, ça détonne. C'est ce qui est écrit sur l'affiche, vous verrez les affiches un peu partout dans Saint-Thé. Venez nombreux. En attendant, nous on se retrouve dans 2 semaines. Bonne fin de soirée.